En jeu. Deuxième prise. Compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, en plein milieu du camp d'entraînement, Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Marc, c'est tout chaud. On va parler d'abord d'un contrat qui vient d'être confirmé. On savait qu'il y avait une prolongation de contrat qui s'en venait chez les Phillies pour Zach Wheeler, qui aura 34 ans au mois de mai. C'est le meilleur lanceur avec les Phillies au moins des deux dernières années. Marc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On parle d'une prolongation de contrat de 3 ans de plus de 40 millions de dollars par année.
Qui va commencer l'année prochaine. Alors, ouais. Effectivement, on va avoir 37 ans là, à la fin de ce contrat-là. Mais les Phillies savent, bon, on sait qu'ils ont mis ce contrat durant l'hiver, Aaron Nola également. Ils ont un bon personnel de lanceurs. Ils croient en leur chance, évidemment. Là, bon, on parle beaucoup des Braves dans cette division-là, mais les Phillies sont là pour, évidemment, pour lutter jusqu'à la fin. Écoute, je vais dire ça ici. Zach Wheeler n'a pas Scott Boras comme agent. C'est un contrat, donc, important parce que, en fait, c'est un des plus importants contrats octroyés à un joueur de cet âge. Là, on parle quand même d'au-dessus de 40 millions par année pour les 3 années là, après cette année. Donc, écoute, les Phillies, moi, ce que j'aime des Phillies, puis Alex Agostino nous en a souvent parlé, c'est que les propriétaires sont sérieux, sont là, ils veulent gagner, ils veulent démontrer aux partisans qu'ils sont sérieux. Alors, un autre exemple de stabilité aussi à travers l'organisation, parce que David Dombrowski, au cours des années, bon, aime bouger, mais cette année, ça a été plus tranquille parce qu'il a en place une équipe intéressante, en fait, plus qu'intéressante. Mm-hmm. Mais écoute, moi, j'aime cette stabilité-là. Oui, c'est beaucoup d'argent, Alain. On voit de plus en plus que les très, très, très bons joueurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis après ça, tu as le reste. Ouais. Alors, c'est un peu plate ce qui se passe dans le baseball à ce niveau-là, parce que tu as vraiment, tu sais, on pourrait compter, là, c'est quoi, il y a une trentaine de joueurs au maximum qui vont faire un 25-30 millions par année, mm-hmm. mais il ne faut pas oublier que la grande majorité des joueurs au-dessus de 50%, ben, c'est pas des salaires ainsi. Là. Donc, mais toujours est-il que pour les Phillies, ben pourquoi pas?
Il y avait deux gros dossiers, en fait. Ben, un gros dossier. Le gros dossier, c'était Aaron Nola. Ça a été réglé assez rapidement dans l'entre-saison, Marc, chez les Phillies. Puis là, bon, Wheeler pouvait se prévaloir de l'autonomie, mais Marc, compte tenu du marché actuel, bien franchement, est-ce que Wheeler avait besoin de Scott Boras pour lui dire que ce qu'il vient d'obtenir, là, il n'aurait pas obtenu plus d'années là, dans le marché actuel?
Ben, écoute, Alain, on va en parler de Scott Boras encore tout à l'heure, mais je vais dire une chose. Bellinger cherchait un contrat pas mal plus lucratif et en termes d'années et en termes, évidemment, de montant d'argent. Même chose pour Matt Chapman. Puis là, évidemment, tu as Blake Snell qui est toujours disponible. Montgomery qui est toujours disponible. Écoute, c'est une stratégie de toute évidence, Alain, qui n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que les gars ne sont pas contents de Scott Boras. Mais ça reste qu'ailleurs, on trouve des solutions, on est un peu plus créatif. Parce que d'entrée de jeu, ce que j'ai entendu, c'est que dans le clan Wheeler, pourquoi on s'est entendu rapidement, on est arrivé en disant, écoute, on est prêt à aller à court terme. On va aller à court terme. Remarque, tu sais, il va avoir 37 ans à la fin de son contrat, mais c'est pas impossible, Alain. On en a vu des contrats de gars de 34 ans, puis on leur a donné finalement leurs 6-7 ans là, qui les amenaient à 40 ans. Mm-hmm. Alors, on ne voulait pas ça du côté du clan Wheeler et de toute évidence du clan des Phillies. Donc, on était prêt à aller à court terme à ce niveau-là.
Écoute, Marc, je vais t'amener sur un terrain. Tu as vu Bryce Harper qui s'est dit ouvert à une prolongation dans un contrat qui le mène déjà à la fin trentaine. Je ne sais pas s'il était sérieux quand il parlait de ça, mais je veux dire, est-ce que les Phillies ont intérêt à commencer à discuter avec Bryce Harper alors qu'on en a pour encore plusieurs années?
Écoute, je vais prendre comme exemple Mike Trout. Hein? Mike Trout qui a dit, moi, c'est moi qui ai signé le contrat avec les Angels. Ouais. Pas question qu'on renégocie avant. Donc, tu vois qu'il y a des mentalités qui sont différentes. Effectivement, ça se demandait s'il était sérieux ou non dans le cas de Bryce Harper. Mais tu sais, lorsque le propriétaire dit, moi, je vais aller payer mes joueurs, je suis prêt, j'aime ce que je vois, je veux donner aux gens de Philadelphie une bonne équipe. Ben, c'est sûr que parfois, tu as tendance à peut-être vouloir à faire un petit appel pour dire, hey, y a-tu de l'intérêt ou non? Mais en tout cas, peu importe, toujours est-il que pour les Phillies, c'est très important, une belle stabilité. Mais il y a toujours le côté, Alain, le passé de Zach Wheeler. Ça n'a pas toujours un gars qui a lancé ses 30-35 départs par année. Donc, il y a un risque dans tout ça parce qu'on sait qu'au baseball, le contrat est garanti.
Oui. Écoute, un autre contrat qui a été signé, c'est Matt Chapman. On parlait du Big Four, ben, c'en est un des quatre qui est parti avec les Giants de San Francisco. Écoute, il a refusé plus d'argent apparemment des Blue Jays de Toronto. Puis moi, je dis bien franchement, je pense que c'est pas de mauvaise affaire pour les Blue Jays de Toronto. Chapman, là, son rendement, si on exclut, après le premier mois de la saison, là, il a beau avoir eu de bonnes notes en défense. Ce qu'il a produit à l'attaque, c'est pas ce qu'on demande d'un joueur de troisième but. Puis je me demande si les Blue Jays ont pas joué de chance un peu quand Chapman a dit non.
Ben écoute, on l'a offert au-dessus de 100 millions à Chapman.
Ben oui.
Alors il l'a refusé, lui et son agent, ils l'ont refusé. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, je pense que les Jays ont dit « Ok, on tourne la page ». Tu sais, on t'offre quand même un excellent contrat, compte tenu de ce que tu viens de mentionner, tu sens que... Il y a toujours le risque offensivement que Chapman n'en donne pas plus, même si défensivement, il est extraordinaire. Alors là, à ce moment-là, ben, les Jays, écoute, on a signé Connor Falefa assez rapidement. Et je ne dis pas qu'il allait être le troisième but régulier, mais tu voyais que là, on avait déjà, selon moi, passé à autre chose du côté des Blue Jays de Toronto. Et de toute évidence, ça s'est manifesté parce que tu regardes le montant d'argent qu'il a obtenu des Giants. Écoute, c'est loin, très loin du 100 millions ou des 6-7 ans qu'on recherchait là, dans le clan Boris et dans le clan Chapman. Donc, il y a une stratégie derrière ça. Tant mieux pour les Giants. On savait qu'il y avait un lien avec les Giants. Non seulement, il a joué sur la côte ouest avec les A's, mais Bob Melvin, qui est maintenant le gérant avec les Giants. Il y avait un lien là, les Giants. Ce qui est intéressant, c'est que le personnel de lanceurs est bâti pour forcer l'adversaire à frapper des balles au sol, donc beaucoup de roulants, ce qui fait en sorte qu'on va avoir une très, très bonne défense, soit dit en passant, avec les Giants. Ouais. Donc, c'est une bonne chose à ce niveau-là. Mais, d'accord avec toi, je pense pas que c'est un gars qui valait plus que ce qu'il vient de signer. Mais compte tenu de ce qu'il vient de signer, je me demande si probablement qu'il y aurait eu un petit peu plus d'intérêt pour Matt Chapman à ce prix-là. Ouais. Mm-hmm. Mais d'accord avec toi, je pense que les Blue Jays ont passé à autre chose compte tenu du risque. Il y a déjà assez de si chez les Blue Jays de Toronto. Ouais. Et là, si tu ajoutais Chapman, alors si Chapman peut frapper comme avant, donc ça venait un peu plus difficile. Ceci étant dit, si Chapman avait été avec les Jays, Alain, ça n'aurait pas été une mauvaise chose du tout. Mais non. Là, on s'en va vers un plan B et C. Ouais. On verra ce que ça va donner.
Oui, puis écoute, tout n'est pas noir, là. Effectivement, l'attaque, t'attends plus de ton joueur de troisième but, mais le rendement global des troisième buts chez les Blue Jays l'année passée, là, c'était un des meilleurs de la Ligue américaine. Donc, sa défense a quand même compensé un peu. Puis, comme tu l'as mentionné, à San Francisco, c'est d'autant plus important qu'on a mis l'accent sur le type de lanceur, Logan Webb, là, par exemple. Là. Sauf qu'à l'attaque, à San Francisco, j'ai l'impression que ça va souffrir un peu. Toujours est-il que, on a parlé des Blue Jays. Marc, il y a certaines inquiétudes. Là. Alec Manoah, notamment, là, on souhaitait qu'il soit le cinquième partant. Ça a mal commencé pour lui. C'est Kevin Gausman là, qui inquiète.
Écoute, Kevin Gausman là, qui tarde à reprendre son entraînement. On parle de fatigue, pas nécessairement de grande douleur, mais de fatigue à l'épaule. C'est pas nécessairement bon signe. Parce que vous savez, les lanceurs, la durée d'un camp d'entraînement, Alain, c'est pour les lanceurs. Les lanceurs ont besoin de, 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 montée de volume, c'est-à-dire bon, de manches lancées, de lancer par présence. C'est un peu pour eux que les camps d'entraînement durent 6 semaines. Parce qu'un frappeur, là, je vous dirais là, qu'après 3 semaines de camp d'entraînement, puis le temps de trouver son synchronisme, il serait prêt à jouer en saison. Les lanceurs, c'est différent. Et là, ben, tout est retardé. Et dans le cas de Gausman, et dans le cas d'Alek Manoah. Bon. Tantôt, je disais, il y a beaucoup de si chez les Blue Jays de Toronto. C'est ça qui est un peu fatigant pour cette équipe-là. Comment prédire une année des Blue Jays? Ben là, si Gausman est rétabli, ça va être correct. Bon, si Manoah peut être le cinquième partant et revenir comme il était. Si Justin Turner joue bien, mais il a 39 ans. Si Vlad est comme le 20-21. Tu sais, il y a beaucoup de si avec les Blue Jays de Toronto. Ouais. Ça m'inquiète un peu. Mais la force des Jays, c'est au monticule. Ce sont les lanceurs partants, entre autres choses. Et là, si Gausman, là, on ne partira pas en peur, là, on parle de fatigue, mais tu comprends que ça peut être fatigant d'entendre ce genre de choses-là à ce stade-ci de la saison. Alors, on espère qu'il n'y aura pas, évidemment, de suite à tout ça. Mm-hmm. Mais je t'avoue qu'Alek Manoah m'inquiète un peu plus parce que physiquement, il a l'air beaucoup mieux, Alain. Mm-hmm. Mais tu sais, on sait le problème l'année dernière, c'était beaucoup plus mental, là, son problème. Ouais. Je pense qu'il a fait des efforts énormes là, pour revenir, mais ça reste que les 3 frappeurs atteints dans son premier départ. Ouais. Après ça, ben, il y a eu un petit problème, là, où évidemment, bon, un peu de fatigue ou un peu de douleur, mais ça reste un peu plus des dossiers qui sont quand même inquiétants en ce début de saison, mm-hmm. en fait, ce camp d'entraînement pour les Blue Jays de Toronto.
Ouais. Écoute, Marc, ça m'amène à la question de la semaine, qui est une présentation de Sylmar Autoville, qui est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Vous pouvez consulter le site web www.sylmar.ca. Donc, on vous demande, quelle est votre plus grande déception dans l'entre-saison des Blue Jays de Toronto? On attend vos commentaires à propos de cette question sur facebook.com/compte-complet-balado. On attend vos commentaires, là, justement, sur qu'on pourrait qualifier d'inaction, là, sur les gros noms, à tout le moins, chez les Blue Jays de Toronto. Marc, on a parlé de Chapman, bon, et du marché des joueurs autonomes, puis il y a un aspect, je pense, qu'on a peut-être négligé dans le marché, et sur lequel il va falloir s'attarder, qui va peut-être changer bien des choses dans le baseball majeur, Marc. C'est-à-dire, la faillite du diffuseur, le Bally Sports, qui a fait en sorte que l'an passé, bon, le baseball majeur a produit les matchs de 4 équipes. On va le faire encore cette année. Je ne sais pas combien d'équipes encore parce qu'il y a eu des ententes. On se restructure. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'équipes, Marc, qui sont impliquées dans ce contrat-là, qui ont décidé de couper dans leur masse salariale. Les Padres, c'est pas nécessairement relié à ça. On n'a pas gagné malgré une grosse masse salariale. Les Marlins, de beaucoup. Les Guardians, les Twins du Minnesota qui pourtant visent le premier rang, c'est beaucoup moins d'équipes qui étaient compétitifs et compétitives l'année passée et qui ne sont pas sur le marché. Je sais que ce n'est pas des gros marchés, mais quand même, peut-être qu'on aurait eu des offres là, pour certains de ces joueurs-là. Je pense à Eduardo Rodriguez qui s'est retrouvé avec les Diamondbacks de l'Arizona. Peut-être qu'un Montgomery aurait pu avoir une offre d'une de ces équipes-là, comme Carlos Correa avec les Twins.
Ben, c'est clair que le marché de télévision sportif va probablement changer dans les prochaines années. Là, avec cette faillite, c'est sûr que, ben, rappelle-toi, il y a 10, 12, 15 ans, Alain, les revenus monstres des contrats de télévision. Ouais. Et là, ce sont des contrats locaux, là, je parle. Bon, lorsque les Dodgers mm-hmm. avaient signé leur contrat, ouais. Il y a plusieurs équipes. Et c'est là qu'on s'est mis, évidemment, à augmenter la masse salariale et c'est là que les salaires ont augmenté parce qu'on avait beaucoup d'argent qui provenait des revenus de télévision. Là, avec cette fête-là, on a senti une fragilité, mais en même temps, c'est peut-être le moment éventuellement de changer la façon de faire. Alors, écoute, tu sais, souvent, c'est une situation qui est pas évidente parce que tu parles encore une fois de marchés qui n'ont pas toujours les reins les plus solides là, si on les compare évidemment aux gros marchés de New York, Los Angeles et Chicago. Mais il y a de la créativité là-dedans. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des manières d'être un peu différent. Le baseball majeur, tu l'as dit, qui s'est impliqué à ce niveau-là,
ouais.
Qui pourrait changer donc la donne éventuellement. Mais oui, ça a effectivement un impact. Et là, tu sais, tu as parlé de Montgomery et tout ça, mais ça a aussi un impact. Il y a beaucoup de joueurs autonomes, tu sais, qui coûtent peut-être 2-3 millions par année. Là. Je ne parle pas des contrats là, mm-hmm. qu'on vient d'octroyer. Mais qui, à un moment donné, ben, font hésiter des équipes pour dire, regarde, on veut pas aller là. Donc, c'est là l'importance, évidemment, d'avoir un réseau de filiales qui est solide.
Ouais.
Je regarde, tu parlais des Twins. Bon, Édouard Julien qui arrive cette année, mais il y a d'autres bons jeunes chez les Twins du Minnesota aussi. Donc, il y a plein d'opportunités intéressantes, mais qui, à la base de tout ça, Alain, ce qui est important, c'est continuer à développer. On ne sait pas ce que le marché a devant nous. Là. On parle de faillite. On ne pouvait pas s'attendre mm-hmm. à ça, là, ce genre de situation-là. Mm-hmm. Mais si tu as un bon réseau de filiales, tu es toujours, on dirait, en mesure de fournir puis d'aider l'équipe, évidemment, majeure, peut-être à moindre coût à certains moments donnés. Donc, c'est une situation où toutes les équipes, en fait, la majorité, parce que là, on parle peut-être de 5-6 gros marchés, mais sur 30 mm-hmm. équipes, ça fait 24 équipes là, qui doivent parfois surveiller un petit peu plus leurs dépenses.
Oui. Écoute, Marc, je disais de la part de spécialistes une étude particulière d'économistes, de gens de baseball, et la conclusion, c'était que l'actif principal d'une équipe, ce n'est pas l'épaisseur du portefeuille, même si ça peut contribuer, mais c'était plutôt le contrôle qu'on peut avoir pendant les six premières années d'un joueur professionnel. Il dit, si on est capable d'avoir de la qualité de ce côté-là, de la part d'une équipe, ça vaut beaucoup plus, comme je le mentionnais, que les moyens que tu peux avoir pour acquérir des joueurs autonomes vieillissants.
Ben, écoute, c'est comme ça que le marché fonctionne. Et effectivement, mm-hmm. Le contrôle de ces joueurs-là, bon, on s'en ira pas dans les négociations de convention collective, Alain, mais ça devient quelque chose de très, très important pour ces équipes-là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui. Écoute, il y a un contrat, moi, que j'ai en tête, Marc, c'est celui de Byron Buxton, parce qu'on parlait de petits marchés. Il y a Correa qui a un gros contrat. Buxton, on a payé le gros prix pour qu'il reste avec les Twins du Minnesota. Moi, je pense qu'il vaut cet argent-là, Marc. On parle de ce cas-là spécifique. S'il joue chansons, pas comme frappeur de choix, les Twins, je ne sais pas qu'ils sont coincés, mais c'est un contrat qui fait mal aux Twins du Minnesota. Buxton, c'est un très bon voltigeur de centre. Il joue moins là pour une raison, c'est qu'il se blesse souvent. Mais Marc, si Buxton n'est pas ton voltigeur de centre, il était très bon en passant comme voltigeur de centre, il ne vaut pas le contrat. Si tu veux avoir un frappeur désigné, ben écoute, je vais me prendre quelqu'un qui me fera 20 circuits à 2 millions par année. Là, il y en a plein qui traînent sur le marché.
Ça, tu sais, regarde, il n'y a rien de parfait, Alain. Parce que, rappelle-toi, on disait, bon, le marché des joueurs autonomes, après les fameuses 6 années, bien, souvent, les gars arrivent à la trentaine, puis là, ben, on leur donnait des contrats de millions, puis évidemment, ils étaient de 30 à 37 ans, puis là, le rendement diminuait. Bon, là, on a un petit peu corrigé le tir au cours des dernières années en octroyant beaucoup de contrats à long terme à des jeunes joueurs.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi des risques avec ça. Oui, tu vas avoir, évidemment, c'est probablement ses meilleures années, mais on n'est jamais à l'abri de blessures. Et Buxton, tu sais, un grand gabarit, un gars qui... Je sais pas qu'il me fait penser à Stanton ou Judge, mais tu comprends, c'est grand, tu sais, le physique imposant, alors que là, on demande de courir à tous les jours, de sprinter aux chansons, de donner contre les clôtures, de produire offensivement. Ben, il y a un risque à tout ça, tu sais. Alors, tu sais, je regarde Ronald Acuña Jr. Il a
ouais.
un contrat à long terme extraordinaire. J'ouvre une petite parenthèse, mais regarde Acuña Jr. là, qu'on vient de déceler une petite blessure au genou. C'est un contrat à long terme. Bon, certains disent qu'il est maintenant déjà à rabais, ce contrat-là. Mais dans le cas d'Acuña Jr., c'est peut-être un peu... Il est peut-être un peu responsable de ça parce que je regarde son nombre de matchs joués, Alain, depuis... Tu sais, ce gars-là n'arrête pas de jouer. Il a joué encore au baseball d'hiver cet hiver. Mm-hmm. Les Braves vont loin en série. C'est un gars qui a joué un an. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'Acuña comprenne que pour rester en santé longtemps dans le baseball, il va avoir besoin de repos. Donc, tu sais, c'est chaque cas est différent, mais de toute évidence, il y a un risque lorsqu'on octroie des contrats de la sorte. Autant à des joueurs de 30 ans, puis on se dit, bien, les statistiques avancées nous disent de ne pas aller là, mais les joueurs aussi plus jeunes, plus à risque, comme des gars qu'on vient de mentionner. Donc, c'est pas parfait, puis surtout pour une organisation comme les Twins.
Oui, exactement. Marc, dans quelques instants, on va parler de ces équipes-là bon, qui pourraient surprendre et qui font face à certains défis également, mais qui réussissent à s'en sortir. Auparavant, je vais te parler d'une carte de baseball. C'est notre segment bon, sur les cartes de la carte de la semaine, qui est une présentation de card-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. 14 000 items et plus en vente sur eBay. C'est une des cartes les plus célèbres, bon, tout sport confondu, c'est celle de Honus Wagner. Bon, je pense que quiconque a suivi le sport a vu cette carte-là à un moment donné, qui a fait des manchettes pour, en raison de sa rareté. C'est la T206 de American Tobacco. Bon, les compagnies de cigarettes qui se servaient. Il n'y a rien de différent, Marc. Tous ceux qui veulent vendre quelque chose s'associent aux athlètes. C'était pas différent il y a 100 ans et on le faisait avec Honus Wagner. Écoute, on évalue là, qu'au maximum, il y en a 200 qui ont été produites. Et bon, Wagner, lui, bon, il en a paru quelques-uns, mais s'est dissocié à un moment donné. Est-ce que c'était parce qu'il voulait, bon, s'est dissocié du tabac? Pas certain de ça. On n'avait pas la même conscientisation vis-à-vis le tabac qu'aujourd'hui. Toujours est-il que c'est une, ou ça a été une des cartes les plus recherchées. Depuis ce temps-là, ben, il y a des faussaires qui se sont amusés. Marc, ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on voit cette carte-là quand on la présente, là, mais c'est tout petit comme carte. Là. Ça n'a rien à voir avec les cartes de baseball qu'on a achetées quand on était jeune.
Non, pis, mais par contre, le même principe, hein, faut que la couleur soit parfaite, il faut que les coins soient parfaits, puis c'est ça qui donne une valeur extraordinaire à cette carte-là. Mais on voit l'évolution, évidemment, de ce marché extraordinaire. Ouais. Mais. Écoute, c'est la rareté et la beauté de tout ça qui fait la différence.
Oui, juste un petit mot sur Honus Wagner, Marc. Il a été un des 5 membres originaux du Temple de la Renommée de Cooperstown, qui incluait bon, Ty Cobb, Babe Ruth. Il y avait aussi Walter Johnson et Christy Mathewson. Pour vous donner une idée, on a toujours dit que c'était difficile d'entrer à Cooperstown. Ben, Cy Young faisait même pas partie des 5 premiers. Ça peut te donner une idée. Wagner, qui était un athlète exceptionnel, Marc, c'est un joueur d'haricots de gros gabarits. T'sais, on a connu, nous, dans les années 70, bon, des petits agiles et tout ça, mais Wagner est en avant de son temps, là, des Alex Rodriguez et tout ça, même qu'on pourrait le comparer. Certains prétendaient qu'on aurait pu le mettre au champ centre, qu'il aurait brillé comme voltigeur d'ascente. Donc, c'était un athlète dans le vrai sens du mot. Il a passé sa carrière avec les Pirates de Pittsburgh. Il a gagné une série mondiale, bon, celle la plus célèbre, c'est 1909. Une série mondiale, Marc, c'est là pourquoi? Parce qu'il était confronté à Ty Cobb, et on sait que Ty Cobb glissait des crampons hauts, et on se demandait ce qui était pour arriver si Ty Cobb était pour glisser les pieds hauts sur Honus Wagner. Ça s'est pas produit. J'ai l'impression qu'on avait parlé de Honus Wagner un peu à Ty Cobb, puis je pense qu'il y avait aussi un peu de respect entre les deux. Un petit mot pour vous dire que nous avons notre site internet comptecomplet.com. On vous invite à le consulter. On sera là toute l'année, tous les lundis, plus lors d'occasions spéciales. Moi et Marc, on aura l'occasion là, de commenter sur ce qui se passe dans l'actualité dans le monde du baseball. Vous allez aussi y trouver tous les liens pour accéder à nos balados. Marc, il y a quelques équipes sur lesquelles je veux qu'on s'attende, les jeunes équipes qui pourraient pousser. Je vais commencer par les champions de la Ligue nationale, parce que c'est pas une vieille équipe. On a vu plusieurs jeunes qui se sont illustrés. Puis moi, il y a un dossier qui m'intrigue, parce que au cours des dernières heures, on a mis sous contrat le vétéran Elvis Andrews. Il y avait déjà une congestion à l'avant-champ. Je pense pas que Ketel Marte aille bien loin. On a acquis Suarez pour aller au troisième but. Puis on a un jeune du nom de Jordan Lawler. On va faire quoi avec Perdomo? Puis là, on vient d'acquérir Andrews. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va partir puis que les Diamondbacks pourraient bouger.
Bon, écoute, évidemment, on joue dans une section qui n'est pas évidente avec les Dodgers, les Padres, les Giants qui se sont améliorés. Mais c'est une organisation qui a goûté là, l'année dernière, évidemment, à du succès jusqu'à la Série mondiale. On est allé chercher un peu plus de leadership, ce qui semblait peut-être manquer là, quelques vétérans. Mais tu sais, dans le cas d'Andrews, souvent, ben, on va aller chercher un peu de profondeur. Je ne suis pas certain, Alain, que ça va amener nécessairement de grands changements éventuellement. Est-ce que quelqu'un qui est blessé ou on n'est pas sûr en fait du début de saison? On va peut-être chercher un gars comme Andrews qui était évidemment disponible. Mais j'aime les gestes posés par cette organisation-là. Elle passe encore sous le radar parce qu'on entend, bon, évidemment, l'acquisition d'Otani avec les Dodgers, puis bon, les Giants qui ont quand même bougé un peu. Mais je vais vous dire une chose, c'est une équipe qui va être encore à surveiller pour bien des raisons, et surtout au monticule. C'est ce qui les avait amenés loin l'année dernière. Alors, effectivement, il faut ajouter les Diamondbacks comme équipe qui pourra encore surprendre, même s'ils ont atteint la Série mondiale l'année dernière.
Écoute, on a notre top 2. On a ajouté Rodriguez. Brandon Pfaadt, est-ce que ce que tu as vu l'année passée en série te fait croire qu'on va avoir un bon quatuor solide?
Ben absolument. Écoute, surtout avec un physique de la sorte, un physique imposant. Mm-hmm. On a appris à le connaître. On a appris, évidemment, à voir un peu comment il pense au monticule au fil de la dernière saison. Et moi, ce gars-là, je suis convaincu, va connaître beaucoup de succès dans le baseball. Surtout en plus, Alain, qu'il est bien accompagné là, de joueurs, de mm-hmm. vétérans lanceurs, de gars qui ont du succès. Tu as parlé de l'ajout de Rodriguez. Donc, tu as quatre partants extrêmement solides à ce niveau-là, sans compter toute l'énergie qu'on produit en attaque avec les Corbin mm-hmm. Carroll de ce monde et Ketel Marte. Donc, moi, c'est une équipe que j'aime, la façon dont on a bâti ça, et j'aime le fait aussi qu'on est allé chercher donc quelques vétérans qui vont donner un coup de main. Oui, on avait des vétérans comme Longoria et Tommy Pham, mais on les a remplacés par des joueurs peut-être qui vont produire davantage. Donc ça va
ouais.
vraiment aider la cause de cette équipe-là. Puis je dois t'avouer que j'ai bien aimé, moi, la façon dont Tony Lovello s'est comporté l'année dernière. Je pense que c'est un gars qui est très... très populaire parmi ses joueurs. Donc, on va jouer derrière lui. C'est une équipe qui, évidemment, comme je l'ai dit, va lutter là, parce que, bon, c'est mm-hmm. pas une division facile, mais ça reste une équipe qui ouais. peut encore vraiment produire cette année en 2024.
Il y a certains qui prétendent encore que son départ des Red Sox de Boston n'a jamais été comblé, que c'était lui qui était vraiment le lien entre la direction puis les joueurs.
Là, tu parles des Red Sox, là, fait que ça se peut qu'il y ait des choses un peu bizarres, mais effectivement, c'est tellement important parce que, oui, les statistiques avancées, Alain, oui, les ci, oui, les ça, mais les relations humaines, on revient mm-hmm. parfois là-dessus, c'est tellement important dans une équipe. Et à chaque année, l'équipe qui gagne, tu entends ça, ouais, écoute, on voulait jouer l'un pour l'autre, on était... C'est clair que ça fait partie de l'équation d'une équipe gagnante. Si tu as des pommes pourrites dans une équipe ou des gars qui traînent tout le monde vers le bas, que ce soit un gérant, que ce soit des joueurs ou même des vétérans, il n'y a rien de bon. Tu cherches. Puis, tu sais, je regarde même au niveau collégial, puis Alex Agostino en parle souvent, tu sais, ça peut être le meilleur joueur, là, puis il y a tous les outils nécessaires pour se rendre, mais s'il y a quelque chose qui cloche au niveau de son attitude puis que c'est pas super, on prend pas ce gars-là, on le laisse de côté. Alors ça, mm-hmm. Ça devient important, là, cet aspect-là, puis je pense que les Diamondbacks ont compris.
Oui. Écoute, quand on regarde les jeunes équipes, puis on a parlé du contrat tantôt, bon, Bally et les conséquences que ça a, ça touche surtout les équipes des deux sections centrales. On ne se cachera ouais. pas, là. Et quand on regarde les jeunes équipes, celle qui a le plus épaté, je ne pense pas me tromper, oui, il y a les Diamondbacks, évidemment, mais je pense qu'on peut parler des Reds de Cincinnati. Là, c'est la deuxième année de pas mal de joueurs. India va peut-être revenir en santé. Il y a peut-être des joueurs de trop. Bon, de ce côté-là, mais toujours est-il que les Reds, là, c'est une année importante pour eux parce que là, il y en a qui vont devoir s'ajuster à la façon dont on va les affronter. C'est toujours la même chose, Marc. Je ne sais pas quoi m'attendre, moi, du côté des Reds de Cincinnati. J'avoue que je suis un petit peu sur mes gardes.
Ben, écoute, tu as mentionné les deux divisions centrales. Puis honnêtement, là, je pense mm-hmm. que ça va être deux divisions pas mal de fun à surveiller cette année. Bon, oui, tu as les grosses équipes des divisions ouest, puis les Dodgers dans l'ouest, puis bon. Mais les centrales, qui ont toujours été, bon, des équipes, tu sais, on se disait ça va être facile pour, par exemple, Cleveland pendant des années, ou là, les Twins, ou peu importe. Mais je vous dirais que cette année, là, bon, oui, les Reds, absolument, Alain, tu fais bien de mentionner, on est sur une belle progression. Moi, les Pirates de Pittsburgh aussi... Je ne dis pas qu'ils vont faire des séries, là. Mais tu sais, on parle de bons mm-hmm. géants. Là. Je regarde ce que les Orioles ont fait au cours des dernières années. Là. Tu le sentais venir. Bon, c'est des bons quand même importants. Là. Je ne dis pas que les Pirates vont faire les séries, mais ça va être une équipe pas mal plus excitante à regarder cette année. Les Pirates vont bondir dans cette section-là. Les Reds, Ce qui est intéressant de ce côté-là, c'est effectivement, ben, on y a goûté un petit peu. Je ne sais pas, par exemple, la perte de Joey Votto. Puis là, tu vas me dire, ouais, son rendement était coussi-coussa, mais ça reste... Mm-hmm. Bon, tu sais, on parlait de présence de vétérans tantôt. Je trouve ça plate qu'un gars comme Joey Votto n'a pas encore d'équipe. Je pense qu'il y a encore quelque chose à offrir. Mais bon, à quel prix? Puis on sait que les formations à 26 joueurs, on veut des joueurs un peu plus polyvalents. Mais toujours est-il que cette centrale-là, oui, les Cubs sont meilleurs avec Bellinger, puis c'est intéressant, mais les Reds, les Pirates, il y a quelque chose de le fun, tu sais, de voir une jeune équipe. Mm-hmm. Les Pirates en ont arraché longtemps, je pense qu'ils vont sortir de là. Les Reds, ça fait une année ou deux qu'on les sent venir. Fait que ça va être le fun. Puis on pourrait parler de la même chose dans l'Américaine, où je pense que, par exemple, les Tigers vont être pas mal meilleurs cette année. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Mm-hmm. Je ne penserais pas. Mais qu'ils peuvent faire un bond un peu plus important et lutter peut-être davantage. Donc, je trouve qu'il y a des équipes qui se sont bien améliorées dans leur développement. Quelques petits échanges ici et là. Puis là, on se retrouve avec... Parce que tu le sais, Alain, dans la centrale, c'est un livre ouvert, là. On peut, ouais. N'importe qui en ce moment là, pourrait pratiquement gagner le titre de la division.
Oui, on mettait des cartes souvent bon, en raison de leur réseau de filiales et tout ça. Sauf qu'il y a un petit passage et à vide, non seulement ça, Marc, mais leurs deux piliers là, commencent à vieillir. Goldschmidt, son rendement a baissé un petit peu. Donc, les cartes ne se sauveront pas. Moi, j'ai l'impression que les Cubs seront là. Pour les Pirates. Écoute, ce qui est dommage, c'est que le jeune Rodriguez, qui était supposé être le receveur numéro 1 cette année, ne jouera pas. Il était blessé là, dans les ligues d'hiver. Puis, c'est, dans le fond, à Pittsburgh, ce qu'on se demande, est-ce que Paul Skenes va effectuer ses débuts dans le baseball majeur cette année?
Oui, bien, Paul Skenes, puis même Jackson Holliday, on pourrait se poser des questions.
Ça, c'est à Baltimore.
À Baltimore. Mais écoute, je regarde le physique de Paul Skenes, puis je me dis... Il n'a pas l'air d'une recrue. Là. Il a l'air d'un gars qui est bien établi. Moi, je ne vois pas pourquoi ce gars-là ne pourrait pas, dès cette année, jouer dans le baseball majeur. Je pense qu'il a le, il a tout pour être là. Ça prouve à quel point les Pirates ont... Encore une fois, on peut faire confiance à des jeunes. Tu peux, à ce moment-là, grandir avec un paquet de jeunes joueurs puis monter dans cette organisation-là. Mais Alain, on le voit, là, la tendance dans le baseball majeur, les gars arrivent de plus en plus jeunes. Les programmes universitaires sont pas mal meilleurs. Les gars arrivent beaucoup plus près. On passe plus 3, 4, 5 ans dans les rangs mineurs, même si c'est un choix de première ronde. On veut la meilleure équipe sur le terrain. On veut les meilleurs athlètes de l'organisation au niveau majeur. Moi, je serais pas surpris là, de voir Skenes. Peut-être pas commencer l'année. Peut-être du bon vieux jusqu'à... Bon, pour... C'est fin avril là, pour s'assurer d'une autre année d'admissibilité. Là. Mais tu veux ces gars-là sur la grande scène. Je veux dire, Paul Skenes va attirer du monde dans les Estrades à Pittsburgh, comme Jackson Holliday va le faire, évidemment, avec les Orioles de Baltimore. On va attendre la confirmation là, si ces gars-là commencent dans le baseball majeur. Ouais. Mais s'ils ne commencent pas la saison, Alain, c'est sûr qu'on va les voir éventuellement sur le mois en 2024.
Oui, je serais étonné. Bon, les Orioles ont la profondeur voulue pour dire à Holliday, bon, regarde, fais quelques semaines, puis si tu as du succès au niveau 3A, on va te rappeler. Dans le cas de Skenes, regarde, lui arrive des rangs universitaires, il a passé seulement une année avec Louisiana State, dans ce qui est la division la plus puissante là, aux États-Unis, dans la NCAA, qui est la conférence du Sud-Est, puis il a été... Il a complètement dominé, puis il a lancé une centaine de manches. Donc, c'est pas comme si on devait le limiter à 30 manches, 40, 50 manches, parce qu'il n'a pas lancé l'année passée. Skenes, écoute, à partir du moment où on va le rappeler, il va être là pour longtemps.
Ben, et puis tu fais bien de mentionner, dans le cas de Holliday, n'oubliez pas, il était repêché au niveau des écoles secondaires. Donc, lui, on peut être patient, mais dans le cas de Skenes, ce qui est intéressant, ce que tu mentionnes, c'est son nombre de lancers. Donc, c'est sûr que tu ne veux pas qu'il atteigne un 240 manches lancées cette année, là, compte tenu de ce qu'il a fait, mais il faut bâtir ce jeune-là. Puis, le baseball majeur a besoin de voir un gars de même sur la grande scène.
Oui. Ben voilà ce qui complète ce balado. J'espère que ça vous a plu, tout le monde. On se donne rendez-vous dans une semaine, le prochain lundi, pour un autre balado, alors qu'on sera encore au camp d'entraînement. Salut tout le monde, à la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.